Je vais inviter Mathieu à s'avancer, Mathieu Grégoire, qui est là avec sa famille ce matin. Mathieu est un de nos missionnaires et on l'a invité à venir faire un tour et il est parti très de bonne heure ce matin avec sa famille. Fait 2 heures de route pour être avec nous, pour nous partager un update. Vous avez appris qu'ils ont dû quitter l'Afrique du Nord, là où ce qu'ils étaient. Il a été arrêté par la police. Alors, il va nous donner un peu un update où ce qu'il en est exactement et les sujets de prière avec lesquels ils sont en train de lutter à l'intérieur devant cette grande déception aussi qu'ils vivent. It's on.
Ça marche? Vous m'entendez? Ah, OK, là, ça marche. C'était pas ma faute. Ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Pour ceux qui se rappellent, on était juste là l'été passé, qui vient de passer au mois de juillet, au mois d'août, quelque chose comme ça. Donc, c'était pas notre plan d'être ici avec vous au mois de février, mais je suis ici un peu pour vous parler de qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, puis pour vous dire qu'est-ce qu'il y en est maintenant pour la suite. Est-ce qu'on a le PowerPoint? OK. Donc, juste pour ceux qui nous connaissent pas, on est missionnaire en Tunisie depuis 4 ans et demi. Ça, c'est nous à notre retour au mois d'août avec les enfants, c'est nos 3 enfants qui étaient ici. Puis, encore une fois, juste résumer pour ceux qui sont pas au courant. Depuis 4 ans et demi, en Tunisie, on travaille avec l'église tunisienne, mais aussi plus officiellement, on travaille avec une église internationale. La plupart des gens qui vont dans cette église-là, c'est des Africains du sud du Sahara, des subsahariens, donc des Africains qui ont la peau noire, Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire, des pays comme ça. C'est ça notre travail officiel en Tunisie. J'étais employé comme pasteur par un réseau d'églises et je travaille dans une ville à l'extérieur de la capitale. Depuis 1 an et demi, on faisait un groupe c'était dans le sous-sol de notre maison. Il y avait un bureau qui était loué par l'église. Alors, ça ressemble un peu à ça, notre groupe, les dimanches matins. Attendez. Donc, depuis qu'on est revenu, depuis l'été, Romain, je peux vous dire que c'était vraiment bien. Certains, vous avez reçu les nouvelles par WhatsApp. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Merci d'avoir prié pour nous. On a eu vraiment du bon temps, particulièrement avec les subsahariens. Donc, il n'y a pas beaucoup de chrétiens tunisiens dans notre région, donc quelques-uns on faisait un peu le suivi, mais beaucoup des gens qu'on voyait à chaque semaine, à chaque dimanche, c'était des gens comme eux. À chaque dimanche, on se rencontrait, on mangeait un repas ensemble, on prenait le repas du Seigneur, on avait un enseignement qui était interactif avec des questions, des réponses, puis on faisait la louange pendant 30 minutes, une heure, puis on avait toujours un temps qui était béni, encourageant. Je vous montre la photo d'un jeune homme, peut-être une photo que vous avez vue. Il s'appelle Daniel, il est gabonais. C'est quelqu'un qui cherchait le Seigneur, qui avait grandi un peu dans les églises, mais qui était un peu confus. Puis on s'est rencontrés en mai passé. Et cet automne, il a décidé de se faire baptiser. Et c'était vraiment une bénédiction de voir ce jeune homme grandir dans la foi. Je vous dis, à chaque samedi, on se rencontrait. Il venait jusqu'à la maison chez moi, puis on passait du temps ensemble. Vraiment, c'était difficile de l'arrêter. 3 heures, 4 heures, toujours des questions. Il voulait toujours parler. Il avait soif du Seigneur. Et c'est vraiment pour des gens comme lui qu'on était là-bas. Une journée, un vendredi avant le samedi, il m'a dit, écoute, j'ai juste l'argent pour le transport, soit samedi matin, soit dimanche matin. Je peux venir soit samedi ou soit dimanche avec le transport en commun. Je lui ai dit, écoute, moi, demain, samedi, je vais venir te voir. Mais il dit, non, je vais trouver une solution. Vraiment, c'est moi qui dois me déplacer. Le lendemain, quand j'ouvre la porte, le gars, il était venu en bicycle de la ville, qui était à peu près 25 minutes d'auto. Il avait emprunté un bicycle puis était venu en bicycle jusqu'à la porte. Puis il dit, qu'est-ce que tu fais, vraiment? Mais c'était vraiment sa manière de montrer que c'était important pour lui. C'était important pour lui de s'asseoir, de prier, de lire. On a vraiment, vraiment été encouragés par ces gens. Quand on a dû quitter, ces gens-là, ils nous ont dit comment que on a changé leur vie, comment on était une bénédiction pour eux. Mais en regardant en arrière, c'est vraiment des gens comme lui qui nous ont bénis, qui nous ont tellement encouragés, qui nous ont tellement changés. Je vous montre une autre photo. Elle n'est pas très jolie, mais ce qui est spécial avec cette photo, c'est que c'est la photo de notre dernier dimanche, le 26 novembre, qu'on s'est rassemblés. On était 37 personnes. Donc, celui qui parle en avant, c'est un pasteur de l'église qui est à la capitale, à Tunis. Il s'appelle Freddy, un Congolais qui est dans le pays depuis une 20aine d'années. Il est venu nous donner une conférence sur, ou un enseignement sur l'histoire de l'église en Afrique du Nord. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de l'histoire de l'église en Afrique du Nord? Personne, vraiment. Augustin, ça vous dit quelque chose? Même pas. L'église en Tunisie, c'était une des plus grandes églises dans les 3 premiers siècles. Vraiment, le concile de Carthage, qui avait été un des premiers à nommer presque tous les livres du Nouveau Testament. On a Augustin, qui a été la plus grande influence dans l'église latine. Lui, il a été à Carthage pendant un temps, c'est un Algérien. Et il nous parlait, en fait, comment l'église, elle a fini par se détériorer. Parce que si vous savez, en Tunisie, c'est maintenant presque 100% musulmans. Vraiment, c'est dur de trouver des Tunisiens qui sont chrétiens. Il nous a parlé du déclin. Une chose qui était spéciale qu'il nous a dit, c'est il nous parlait d'un temps où l'Église était persécutée. Et il nous a dit, par exemple, qu'est-ce que vous feriez, vous, le dimanche, si vous arrivez? Puis pendant la semaine, le pasteur a été tué, l'autre pasteur a été arrêté, les diacres se sont sauvés. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous rassemblez? Est-ce que... Et moi, je suis assis comme ça, je me dis, qu'est-ce qui arrivera à notre groupe si moi je partais? C'est ça la question que je me suis posée. Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'était le dernier dimanche. Le lendemain matin, la police nous a visités à la maison. Il y a un voisin qui a fait une plainte à la police en disant qu'à notre maison, on avait des migrants subsahariens qui habitaient. Je vais faire une distinction pour vous. En Tunisie, il y a ce problème de migration irrégulière. Je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant. La Tunisie, maintenant, c'est le pays qui envoie le plus de migrants, donc de sans-papiers, vers l'Europe cette année. Plus de la moitié de ces gens-là, c'est des gens qui viennent de d'autres pays. Ce n'est pas des Tunisiens. C'est des gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale. Et c'est l'Europe met une grande pression sur la Tunisie pour arrêter ça. Donc, c'est un sujet qui est tellement, on va dire, chaud, tellement épineux en Tunisie. Et là, mon voisin, il m'accuse, en fait, d'être un passeur de migrants. Okay? Donc, moi, je prends les gens chez moi sans papier, puis je les aide à passer en Europe. Donc, vous pouvez imaginer comment c'est devenu grave assez rapidement. Quand la police est venue, ils ont vu qu'il n'y avait pas de migrants, rien, mais ils ont vu qu'il y avait un bureau pour l'église. Normalement, ils étaient au courant, mais ils ont décidé de faire des problèmes. Donc, finalement, ils ont ramassé les bibles, ils ont ramassé les choses. Et à notre grande surprise, à moi, à l'avocate et le pasteur qui était venu aussi pour parler avec la police, ils ont décidé de m'arrêter. Donc, on m'a dit, tu vas passer 2 jours en prison, puis après, tu vas passer devant le juge. Ce qui était grave dans l'histoire, c'est que, en fait, j'étais soupçonné de terrorisme. OK? Donc, vous pouvez imaginer un peu peut-être comment c'est grave. Donc, le problème quand on est soupçonné de terrorisme, c'est que ça peut prendre 3-4 mois avant d'avoir une date pour voir le juge. Moi, je ne suis pas au courant de ça, mais ma femme, elle est à la maison avec les 3 enfants, elle est au courant que ça peut prendre plusieurs mois. Donc, vous pouvez vous imaginer, peut-être s'il y a des mères ici à la maison, ici à l'église, vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que c'est. Finalement, par la grâce de Dieu, vraiment, j'ai été relâché après 3 jours. OK? Donc vraiment, c'était, je ne sais pas à quel point c'est un miracle, parce que je n'ai pas compris tout ce qui s'est passé, mais à la brigade où on investigue le terrorisme, le chef là-bas, quand il a vu mon dossier, il a dit, il faut fermer le dossier immédiatement, et il a décidé de renvoyer le dossier au civil. Mais normalement, il aurait dû me garder au moins 15 jours pour faire une investigation. Mais grâce à Dieu, vraiment, grâce aux prières des gens qui étaient au courant, il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient au courant à ce moment-là, mais vraiment, j'ai pu sortir, j'étais pris le lundi, j'ai pu sortir le jeudi et retourner avec ma famille. Le problème, tu peux passer. Le problème, c'est que maintenant, on était un peu, on était un peu connus. On était un peu, vous savez, un peu une personne un peu spéciale par rapport à la police. Puis, à la fin de tout ça, on m'a innocenté par rapport au terrorisme ou la migration, mais on m'a accusé d'organiser des réunions sans permission à la maison. Okay? Ça n'a pas trop de sens, mais on m'a dit, tu ne peux pas faire ça, sauf si tu demandes la permission. Et tout ce que j'ai entendu de tous les tribunaux où j'ai passé, la police avec qui j'ai parlé, chacun me dit quelque chose de différent. Il faut que tu demandes au ministre de l'Intérieur, il faut que tu demandes au ministre des Affaires religieuses, il faut demander au maire, il faut demander à la police, il faut demander à la brigade antiterroriste. Il faut faire une liste de tous les noms des personnes qui sont là avec leur passeport. Il faut faire ça à chaque semaine. Donc, nous, on a compris qu'est-ce que ça veut dire. On a compris que ça veut dire non. Et on a dit, on ne peut plus rester dans cette région. On ne sait pas si on est suivi. On ne peut pas continuer à rassembler les gens. C'est les autres personnes qu'on va mettre en danger. Donc, on avait le choix de déménager dans une autre région ou de revenir au Canada. On s'est dit, si on déménage dans une autre région, peut-être que l'an prochain, ils ne vont pas renouveler notre visa. J'ai quand même été accusé de terrorisme. Ou pire encore, on vous visite dans 2 ans. Puis quand on veut retourner en Tunisie, ils nous bloquent à la frontière. Ils disent non, vous ne rentrez pas. Donc, on s'est dit, maintenant, on a l'opportunité de déménager, de prendre notre temps, de vendre nos choses, de dire au revoir aux gens et de partir. Et on ne voulait pas continuer à déménager nos enfants d'une place à l'autre pendant des années. Donc, on a choisi de revenir au Canada définitivement. Donc, ça répond peut-être à une de vos questions. On n'est plus missionnaire. À partir du mois prochain, on ne travaillera plus pour notre organisation par qui le soutien passait. On se réinstalle au Canada, je vais travailler, puis on regarde un peu pour la suite, donc pour répondre à une question. En ce moment, on est vraiment en grand changement. On se réinstalle, on considère, on regarde qu'est-ce que la volonté du Seigneur est pour nous. Mais on n'est plus missionnaire, on ne va pas retourner dans un autre pays. Donc, juste pour vous dire aussi, le soutien va s'arrêter automatiquement au mois de mars. S'il y en a qui nous soutiennent ou pour l'Église, à partir de mars, le soutien, il ne pourra plus passer par notre organisation. Donc, vous pouvez arrêter maintenant, vous pouvez attendre le mois de mars. On veut vraiment vous remercier pour vos prières pendant tout ce temps-là, aussi pendant ce dernier mois qui a été difficile pour nous. Merci pour votre soutien aussi pendant les années qu'on était là-bas. Donc, c'est avec beaucoup de joie qu'on revient parmi vous, qu'on revient ici au Canada, mais c'est aussi avec la tristesse de laisser les gens que vous avez vus dans l'autre photo avant. On a eu la chance de les revoir une fois. On a organisé une rencontre à Tunis et on a pu revoir ces étudiants subsahariens avec qui on se rencontrait les dimanches pour faire nos adieux. Et l'autre photo, c'est les responsables de notre réseau d'église. Donc celui qui est à gauche ici, c'est lui qui m'a beaucoup aidé, qui était avec l'avocate, qui a vraiment fait le labyrinthe, les 12 travaux pour essayer de faire avancer mon dossier. Et c'est vraiment le cœur lourd qu'on a laissé à ces personnes, qu'on a laissé une partie de nous-mêmes en Tunisie, mais en même temps, c'est soulagé qu'on peut revenir tous ensemble en Tunisie, que je suis pas revenir ensemble au Canada et que je suis plus en prison aujourd'hui. Alors, encore merci pour vos prières et votre soutien.
J'aimerais vous les inviter à vous lever avec moi. On va prier pour les Grégoire. C'est certainement pas ce qui était leur plan. Le Seigneur est en train de changer leur plan. Et parfois, on vit des sentiments d'incompréhension, d'irritation. Vous savez ce que c'est lorsque nos plans sont brisés puis qu'on a juste le plan A. Il n'y avait pas de plan B. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Le Seigneur a des plans, mais certainement qu'ils ont beaucoup de questions. Prions avec eux, pour eux, que le Seigneur puisse les diriger. OK? Père Céleste, on s'approche de toi parce que on connaît ce sentiment dans des petites choses, Seigneur, comment on vient irriter, aigri facilement lorsque nos plans ne vont pas dans la direction qu'on veut. En plus, quand on est convaincu que c'est ta volonté et que là se heurtent des gens, des choses, des événements, et quelle confusion, quelle frustration, quel questionnement qui nous hante. Et donc, on peut en pâtir, Seigneur, et imaginer ce que les Grégoire peuvent vivre alors que leur cœur était vraiment pour le fait d'être en mission là-bas avec à Tunis et tous les besoins, les gens qu'ils ont aimés et pris soin. Seigneur, conduis-les. Accorde-leur une paix spéciale et que nos prières puissent les accompagner dans ce moment de transition. Que tu puisses, Seigneur, leur montrer pourquoi tu fermes une porte et où est l'autre porte que tu ouvres, Seigneur. D'être patient. Et Seigneur, de te faire confiance. C'est difficile lorsque les plans s'arrêtent et qu'on n'a rien devant nous. Et pourtant, voilà l'expression que de te faire confiance dans les bons et les mauvais jours. On te les confie, Seigneur. On te prie de les bénir, de les fortifier, de leur accorder des clins d'œil jusqu'au moment où ce que la porte que tu as pour eux puisse s'ouvrir et qu'ils puissent faire « Ah, c'est pour ça, Seigneur. » Et on te le demande, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. On est dans Timothée, je vous invite à aller dans le livre de Timothée. Et nous sommes dans une série de Timothée, 1 Timothée, sur comment se comporter dans la maison de Dieu. C'est ce que Paul nous dit dans le chapitre 3. Il dit, en attendant que je m'en vienne, mon cher Timothée, voici, je te donne quelques consignes devant la mission que je t'ai confiée de prendre soin de l'Église à Éphèse. Voici comment on devrait se comporter sur différents sujets, différentes problématiques que j'entends dans la maison de Dieu, dans l'Église de Dieu. Et il adresse toutes sortes de sujets et on s'est embarqué dans ce livre de Timothée et on va adresser plusieurs sujets qu'on n'a pas sélectionnés mais qui sont simplement là. Et un des sujets qu'il y a là, entre autres, c'est qui peut ou ne peut pas enseigner dans l'Église. Et évidemment, c'est un texte extrêmement populaire, ce texte que je prêche à tous les deux semaines. Vous entendez une prédication là-dessus. C'est un sujet que tout le monde est en accord avec, donc assez facile généralement sur les tensions hommes-femmes, n'est-ce pas? En fait, pour vous être bien honnête avec vous, ça, c'est le genre de dimanche matin que les pasteurs aimeraient avoir une femme pasteur dans l'Église pour prêcher ce texte-là. C'est la seule fois dans l'année où ce que là, ils disaient, je serais tellement content qu'elle puisse prendre ce texte-là et adresser un sujet aussi épineux. Et parfois, il y a des églises qui offrent aussi une lapidation derrière l'Église avec des tomates pour les frustrer le dimanche matin. On n'a pas cette option-là ce matin. Les tomates n'étaient pas en spécial cette semaine. Donc, on a retardé cette lapidation aux tomates. Je commence ce matin avec une citation qui j'ai trouvée tellement appropriée et qui va donner le ton dans lequel on va regarder cette semaine et la semaine prochaine. C'est versets 9 à 15 du livre de Timothée. C'est un grand prédicateur américain, bien connu, un prédicateur de réveil, un homme qui a écrit une quarantaine de livres, un évangéliste qui a fait le tour des États-Unis et à bien d'autres endroits, qui a écrit ceci. Il dit « Une bonne femme est la meilleure chose au monde. Les femmes furent les dernières à la croix et les premières au tombeau ouvert. » Un fait historique que les évangiles nous relatent. Pas juste une fois, quatre fois dans chacune des évangiles. L'Église doit une dette envers ses femmes fidèles qu'elle ne pourra jamais estimer sans parler de la dette que nous avons dans nos foyers envers des épouses et des mères pieuses. Et quand on dit pieuses, craignantes de Dieu, des craignants Dieu. Quelle belle citation soulignant la dette que nous avons. Et c'est intéressant, cette illustration, on ne s'est pas parlé, moi puis Yvan, cette illustration que Yvan a partagée ce matin, hein, avec ce petit garçon et la tuque de sa mère. Ce respect et cet amour qu'il avait pour une mère qui a marqué sa vie. Je suis conscient que pas tous d'entre nous ici, que le rôle de mère a nécessairement la même connotation selon ce que vous avez vécu dans votre enfance. Et pourtant, la Bible a beaucoup à dire sur les mères et beaucoup d'éloges à dire. Et ce matin, je commence par une histoire. Une histoire historique qui est importante au Québec. Elle s'est déroulée, il y a de cela bien des années, en 1839. Cette femme, Madame Fallard, est arrivée à la mi-trentaine, veuve, une femme assez en moyen, une bourgeoise de Suisse. Son mari est décédé. Elle a décidé d'aller en mission pour aller rejoindre un pasteur, le pasteur Olivier, qui était à Montréal. Et lorsqu'elle arrive au Québec avec un jeune pasteur de 25 ans, tout frais sorti de l'école biblique, M. Rossi, qui était comme un peu son petit frère, et ils vont être un tandem pendant plus de 30 ans, elle arrive là-bas et finalement, le pasteur avec lequel elle venait travailler et son épouse quittent pour des raisons de santé. Ils se ramassent largués à Montréal, 1835, avec M. Rossi, et le Québec est là, avec bien des besoins, par où commencer. Et Dieu a envoyé cette femme, Mme Feller. Elle a commencé en toute simplicité, elle a vu entre autres un besoin, le besoin de l'éducation. Les gens étaient dans les rangs de campagne, aucune éducation pour les enfants qui étaient subventionnés par le gouvernement. C'était des gens qui payaient pour envoyer leurs enfants, donc des gens aisés. Très peu de gens dans la population pouvaient lire et écrire. Elle décide d'utiliser ce moyen d'instruire les gens à lire et écrire dans les rangs de campagne comme moyen pour éduquer les enfants avec la parole de Dieu et leur enseigner sur Jésus et le salut en Jésus-Christ seul par la foi dans un monde de religion, de rigueur et de contrôle religieux, une époque où les gens n'ont aucune espèce d'idée comment est-ce possible d'avoir une certitude d'aller au ciel. Et cette femme fait une grande différence, et un jour, elle eut cette rencontre avec un homme du clergé, un jeune prêtre, 27 ans, et il arrive avec ses papiers, se présente à elle, et il rencontre cette femme protestante. Évangélique. Et il dit ceci sur cette rencontre, M. Louis Normando. Et je vous cite ici son propre petit pamphlet de cette première rencontre marquante dans sa vie avec Mme Feller. Dans sa brochure qui est écrite « Souvenirs de Mme Feller », il dit ceci. « Quoi, pensais-je à moi-même, une femme peut-elle m'éclairer sur la religion ?» Car c'était dans ce but que je m'étais rendu à la grande ligne, dans ce rang de campagne. J'accepta son invitation à la suite de l'avoir suivi au salon, parce que lui voulait rencontrer le jeune pasteur, M. Rossi, qui est à peu près du même âge que lui. Après lui avoir montré un papier qui faisait connaître ma profession, je lui ai dit comment mes vues sur la religion avaient changé. Surtout après avoir fait la lecture de la Bible. Après avoir posé quelques questions auxquelles elle ne manqua pas de répondre d'une manière qui laissait voir qu'elle connaissait bien ce qu'elle disait, je vis à mon grand étonnement que j'étais un protestant. Louis Normando. Et cet homme-là a servi jusqu'à sa fin de sa vie, en 1891, comme pasteur au Québec pendant 50 ans. Sa première rencontre, c'est une femme qui l'a reçue en toute humilité et dont l'humilité est pourtant la connaissance et les compétences indéniables de cette femme éduquée l'ont saisi pour réaliser qu'il ne croyait pas dans ce qu'il pensait être dans l'Église catholique et que sa foi était dans ce qui était écrit dans les Écritures seules. Et il sera pasteur à travers le Québec à différents endroits, dont l'église de Saint-Pie, où on n'a plus l'église aujourd'hui, mais qu'on retrouve à Saint-Pie, cette petite église, où il y a une plaque encore commémorative. Il a été un de ces pasteurs-là, il y a 160 ans, dans cette petite communauté. Vous n'entendrez jamais parler, peut-être, de M. Normando, après m'avoir entendu en parler. Et pourtant, cet homme a servi pendant 50 ans au Québec comme pasteur d'Église baptiste de la Grande Ligne. Il a eu beaucoup d'influence et ils ont baptisé sous le ministère de cet homme, de Mme Feller, de M. Roussy, plus de 4000 convertis dans les années 1800 seulement à la Grande Ligne. Et ce, avant même que le Père Chiniki se convertisse et devienne à faire des grandes croisades d'évangélisation avec les presbytériens. C'était les années 1800. Et vous savez, si l'école le dimanche a une si grande importance aussi parmi nous, au Québec, il y a une influence de Mme Feller qui a mis l'importance d'éduquer les enfants et dont les institutions chrétiennes sur la rive sud de Montréal et à Montréal ont été instaurées par elle et ont fermé 100 ans plus tard, dans les années 50 et 60. Une femme dont les éloges, et je vous invite à lire les mémoires de Mme Feller, on dit d'elle qu'elle était une femme courageuse, une femme éduquée, administrative, une femme qui était bourgeoise en Suisse est devenue une paysanne canadienne et qui a marqué son époque. Une femme qui avait de l'argent et qui prêtait l'argent à l'Église pour des choses qu'elle payait et qu'elle faisait rembourser, qu'elle faisait des prêts à l'Église. Elle avait fait un prêt un jour de 500 $. C'était il y a 200 ans, les amis. C'était énorme. Elle gérait d'une manière impeccable. Et lorsque les hommes étaient des jeunes prédicateurs, elle les rencontrait dans l'après-midi. Il venait échanger avec elle, humblement en train de leur donner des conseils, de les reprendre sur leur rigueur, dans leur préparation, etc. Parce qu'elle les avait éduqués. Elle les avait eus à la petite enfance. Ils avaient grandi, ils étaient devenus des pasteurs de l'Église. Elle eut une extrêmement grande influence et on dit d'elle ceci, elle ne dépassait jamais ses limites apostoliques, c'est-à-dire selon les enseignements des apôtres dans le Nouveau Testament. Comme Phébé, qu'on mentionne dans Romains chapitre 16, elle fut une diaconesse de l'Église. Comme Priscille, elle pouvait exposer avec exactitude la voix de Dieu à Apollos, mais elle n'usurpa jamais d'autorité que son maître ne lui avait octroyée. Et vous pouvez trouver des dizaines de livres, et bien plus encore, qui parlent de la marque que cette femme a laissée au Québec et pour lequel nous avons comme cette citation une dette de gratitude. D'une femme que Dieu a donné des dons et qui a eu l'audace de venir malgré tout et qui a eu l'audace de rester lorsque des problèmes sont survenus devant elle. Elle a dû s'exiler aux États-Unis. Elle a fait des grandes croisades aux États-Unis pour aller chercher de l'argent chez des associations de femmes pour amener de l'argent au Québec pour payer des pasteurs, payer des bâtiments, payer toutes sortes de choses pour l'œuvre au Québec. Elle s'est battue jusqu'à sa mort en étant aussi souvent accablée de pression et de stress qui apportait de l'anxiété dans sa vie et dont elle partage. Jusqu'à ses 67 ans. Quel exemple pour nous. J'aimerais vous inviter à regarder dans Genèse chapitre 3 et garder votre petit doigt dans Timothée. Et pour bien apprécier et comprendre pourquoi ce sujet est si délicat, il faut parfois retourner justement à ces bons vieux textes qu'on connaît par cœur et qu'on peut parfois hésiter de relire parce qu'on le connaît tellement bien. Et pourtant, ce sont souvent les textes les plus simples, les plus connus, qu'on a besoin de relire, frères et sœurs. Et qu'on manque de se rappeler des vérités essentielles à l'Évangile et à la vie en Église. Et donc, je vous lis ces quelques versets dans Genèse chapitre 3, que vous connaissez trop bien, et pourtant, qu'on oublie si facilement dans la semaine, dans le quotidien. Verset 11 de Genèse chapitre 3. Le Seigneur lui répondit, « Et d'où avez-vous su que vous étiez nus, en parlant de vous à Adam et Ève, sinon que vous avez mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre dont je vous avais défendu de manger? » Il parle aux deux ici, l'homme, le premier homme, la première femme. Adam lui répondit, en homme très responsable, « La femme que tu m'as donnée pour compagne, en plus c'est toi qui me l'as donnée comme compagne, il y a une double, j'en dirai pas plus, vous avez compris, m'a présenté ce fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Au Québec, on dirait, c'est de sa faute, puis c'est toi qui me l'as donné. J'en dis pas plus. Le Seigneur dit à la femme vers qui l'homme d'enfant avait pointé, « Pourquoi as-tu fait cela? » Elle répondit, « C'est le serpent qui m'a trompé et j'en ai mangé. C'est pas de ma faute, c'est lui. » Alors Dieu se retourne vers le serpent. Alors le Seigneur dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit d'entre les animaux et tous les bêtes de la terre, et tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. » On ne sait pas comment il était le serpent avant, mais il n'était pas comme il était présentement, certainement. Et il est maudit, parce que le serpent a une part de responsabilité qui est vraie. Il continue, « Je mettrai l'inimitié, donc la rivalité, entre toi et la femme. » Ce n'est pas de là que vient finalement la tension entre les femmes et le serpent, là, et qui ont peur des serpents. Ce n'est pas ça qu'il veut dire vraiment. Là. C'est la tension entre la descendance de la femme et lui. Entre ta race et la sienne, elle te brisera la tête. Donc, la race de la femme va briser ta tête et tu tâcheras de la mort. Excuse-moi, de la mordre par le talon. Donc, elle va t'écraser la tête, mais toi, tu vas réussir à la blesser au talon. Et on sait que ce texte est repris plus tard et qu'il parle ici de la venue future du Messie, qui, oui, sera blessé au talon, mais dont Satan sera écrasé par le semence de la femme, puisque c'est d'une femme que vient notre Messie, et non d'un homme. Dieu choisit que ça passerait par l'enfantement d'une femme, mais que l'homme ne participerait pas dedans, si ce n'est que d'aimer cette femme, de prendre soin de cette femme et d'être un père sur terre pour cet enfant. Dieu dit aussi à la femme, « Je multiplierai vos maux et vos grossesses et vous enfanterez dans la douleur et vous serez sous la puissance ou la domination de votre mari et il vous dominera. » Je reviens là-dessus, ce ne sera pas long. Ce n'est pas positif ici. Pour l'homme et pour la femme. Il dit aussi à Adam, « Parce que vous avez écouté la voix de ta femme, de votre femme, et que vous avez mangé du fruit de l'arbre dont je vous ai défendu, tu es responsable, la terre sera maudite à cause de ce que vous avez fait. Tu vas travailler seul, mais tu vas bûcher, ça va être tough. Et c'est à force de travail que vous en tirez de quoi nourrir pendant toute votre vie. Elle vous produira des épines et du ronce, et vous nourrirez de l'herbe de la terre. Vous mangerez votre pain à la sueur de votre visage ou au stress au bureau, jusqu'à ce que vous retourniez à la terre d'où vous avez été tiré, car vous êtes poussière et vous retournerez à la poussière. » Et Adam donna le nom à sa femme de Ève. Pourquoi? Parce qu'elle était mère de tous les vivants, Chava. C'est le nom de ma deuxième fille, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Celle qui donne la vie. Et donc, de cette femme vont venir tous les êtres humains. Toute la race humaine vient de cette femme. Et remarquez bien ici, trois choses bien simples qu'on peut remarquer. Les relations seront plus compliquées dorénavant entre l'homme et la femme, alors qu'ils étaient paisibles avant cela. Un complétait l'autre. Un avait besoin de l'autre. Et là, il n'y a plus d'appréciation mutuelle, naturellement. Il y a de la rivalité. La vie sera plus difficile et beaucoup plus de souffrance également. Tension et insatisfaction dans les rôles homme-femme. Et là, cette tendance aux hommes dans leur insécurité de dominer, de contrôler les femmes de regimber contre cette force que les hommes imposent sur eux, sur leur égoïsme, et de résister contre ce que Dieu établit, que l'homme a été créé en premier. C'est pas lié à l'intelligence de l'un ou de l'autre. C'est pas lié à un qui est plus connecté avec Dieu que l'autre. Pas un qui a plus l'avantage. C'est simplement comme ça. Et à chacun avec un rôle très distinctif dans la vie humaine. Les hommes, tout seuls, ne peuvent pas avoir d'enfants. Ni les femmes toutes seules, c'est ensemble. Les hommes ne peuvent pas porter d'enfants. Les femmes le peuvent, mais pendant qu'ils sont vulnérables, ils ont besoin de soutien et d'aide. C'est un travail d'équipe que Dieu a mis. Et pourtant, il y a de la colère, de l'irritation. Et vous savez, lorsqu'on touche ces sujets, on touche à des boutons de réaction. Ils sont là en nous, hommes et femmes, des boutons de réaction. À un père, une mère autoritaire, à une expérience difficile et frustrante dans l'Église avec un homme, une femme envers nous, au travail, dans le voisinage, à l'école, peu importe, on réagit à quelque chose parce qu'on est blessé. Et pourtant, la Bible est claire, c'est seulement l'Évangile qui peut amener la paix. C'est seulement Jésus et ce qu'il peut faire dans notre cœur, le pardon, la mort de Jésus-Christ, qui peut restaurer et amener de l'harmonie là où, depuis la malédiction, il y a de la tension. Seulement l'Évangile peut amener ça. Et ce qui est clair, c'est dans notre société, toutes les tensions sont liées à Genèse chapitre 3. Il y a de la colère, un manque de confiance, il y a un rejet de notre propre sexualité pour toutes sortes de raisons très variées, qu'on ne peut pas juste confiner à une seule raison. Il y a un rejet du Créateur et donc un rejet aussi de comment le Créateur nous a créés. Un désir d'être contre l'autre sexe, peu importe. De rejeter notre propre sexe, ne l'acceptant pas. Pour toutes sortes de raisons aussi, très variées les uns les autres. Et pourtant, on inverse tout ça, on brasse les cartes, et d'une société à l'autre, ça varie. Est-ce que le bonheur est plus présent? Non. Non. On a plus de liberté que jamais pour que les hommes et les femmes se séparent les uns des autres et se divorcent. Est-ce qu'on réussit mieux comme parents? Est-ce qu'on est plus heureux en couple aujourd'hui au Québec qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans, lorsque les femmes restent à la maison par obligation, par culpabilité, pour plusieurs? Est-ce qu'il y a plus de bonheur aujourd'hui? Lorsque l'un votait et l'autre ne votait pas, là que vous votez, est-ce qu'il y a plus de bonheur? Parce qu'il y a un vote. Lorsque certains ne pouvaient pas avoir de travail et que les autres pouvaient, et que là, c'est devenu égal, est-ce qu'il y a plus de bonheur à cause de cela? Force est de constater que ça n'a rien changé, nos progrès. Et ce n'est pas une critique contre ces progrès qui étaient légitimes à bien des égards, n'est-ce pas? Mais la tension et le renversement n'est pas changé par l'humain. Le seul facteur qui ramène la paix, c'est l'Évangile. Rien d'autre peut ramener la paix entre l'homme et la femme. Seulement l'Évangile, le pardon de Jésus-Christ, la restauration biblique de la vision du Créateur pour l'homme et la femme. Et donc, lorsqu'on retrouve des corrections là-dessus dans le Nouveau Testament, ce sont toujours des textes qui sont graffignants. Ça graffigne, que vous le voulez ou pas, que votre face le montre ou pas dans la lecture, ça graffigne. Parce qu'il y a des choses qui sont soulevées. Ça dégale des plaies. Et pourtant, ils sont là, on doit en parler. Et vous savez, certains vont dire, ah, mais c'est parce que, vous savez, contextuellement, c'est un célibataire qui écrit, hein? C'est un frustré contre les femmes, Paul. Il est même un peu misogyne. Il n'aime pas les femmes, il les déteste. C'est pour ça aussi que dans l'Église, il ne les favorisait pas. Et certains vont aller vers ce type d'interprétation pour minimiser l'autorité des Écritures. Mais si on efface ce texte-là, c'est parce qu'il faut effacer aussi un texte dans un autre épître. Il faut effacer aussi un texte de Pierre également, Saint-Pierre. Hein, oui, il faudrait effacer un de ces textes dans le chapitre 3 d'un Pierre. Puis il faudrait aussi effacer des textes de Jésus dans les Évangiles. Il faudrait effacer des textes aussi dans l'Ancien Testament. Et là, on commencerait à finalement perdre bien des pages dans notre Bible. Une fois qu'on s'attaque à un texte puis qu'on ne l'accepte pas comme parole de Dieu. Ça dérange. Mais souvent, quand on creuse, il y a deux choses à savoir. Premièrement, pourquoi ça me dérange personnellement dans mon cœur? Qu'est-ce que ça vient dégaler? Deuxièmement, est-ce que je saisis bien le texte dans son contexte ou est-ce que j'isole ces deux, trois versets-là, j'oublie ce qui est dit avant et après sur l'homme et la femme, les deux? Et que là, j'ai une vision très restreinte, très isolée, et comme on peut faire parfois facilement dans une prédication, de cibler juste deux, trois versets et d'oublier tout l'ensemble autour. Le contexte, est-ce que j'ai vraiment saisi bien le texte? Et s'il vient choquer quelque chose en moi, est-ce qu'il y a des choses autour qui m'échappent aussi? Et c'est ce qu'on va tenter de faire cette semaine et la semaine prochaine, et particulièrement cette semaine, d'enlever certaines embûches, mécompréhensions et frustrations qu'il y a homme-femme. Évidemment, avant de commencer, on va lire ces quelques versets et prier le Seigneur. Je vous invite à aller avec moi dans 1 Timothée. On va lire que 3 ou 4 versets. 1 Timothée chapitre 2, verset 9, qui commence « Je désire aussi » ou « pareillement » ou « de la même manière ». Alors, si on lit ça au verset 9, il est en train de nous dire qu'il faut qu'on se rappelle ce qui vient d'être dit juste avant au verset 8. Fait qu'on va lire le verset 8 pour être respectueux du texte, OK? Et ça dit ceci, je lis dans français courant, « Je veux donc qu'en tout lieu, les hommes, et là ici, c'est pas les humains, mais évidemment, les hommes ou masculins, prient. » Il dit pas que les femmes peuvent pas prier, au contraire. « En levant les mains pures vers le ciel, et c'est pas l'acte comme tel, on l'a mentionné, de mettre les mains pures, mais d'avoir un cœur qui dépend de Dieu, qui adore Dieu, sincèrement, sans colère, ni un esprit dispute. » Quand tu viens prier, c'est pas normal que tu traînes des conflits brisés, des conflits parce que t'es mis en colère, des gens avec qui tu as des tensions. Prie avec un cœur dépendant de Dieu, humble, brisé devant lui, qui dépend de lui dans ce que tu vas lui demander. Que tu es allé régler tes problèmes, que tu as réglé, que c'est là, puis tu ne les laisses pas en suspens. Que ta colère, tu la gères. Ça semble être un défi qu'il donne particulièrement aux hommes ici. Et là, il dit, pareillement, je désire aussi donc que les femmes, qui elles aussi vont prier, s'habillent d'une façon décente, avec modestie. Donc, pour les hommes, ils touchent cette attitude-là. Les femmes, ils parlent de modestie et intérieure et extérieure. Ils disent modestie et simplicité. Qu'elles ne s'ornent pas, qu'elles ne se décorent pas, en quelque sorte, ni de coiffures compliquées, ni de bijoux d'or, ni de perles, ni de vêtements luxueux, mais qu'elles se, dans le fond, qu'elles s'habillent ou qu'elles se parent de bonnes œuvres à place. Comme il convient à des femmes qui déclarent respecter Dieu. Et là, je m'aventure à lire le prochain verset, mais qu'on va regarder la semaine prochaine. Il faut que les femmes reçoivent l'instruction. Et là, ça va jusqu'ici. C'est un impératif qu'ils reçoivent l'instruction, mais en silence et avec une entière soumission. Et c'est là que tous les gens dans la salle disent il y a une hésitation à dire amen. C'est pas juste, j'aurais dû pas demander un amen à ce moment-là, parce que j'ai pas tout dit, n'est-ce pas? Alors, on va le faire juste par la foi, on va prier le Seigneur. Seigneur, ça fait partie de ces textes difficiles et humblement, je me place devant toi, Seigneur, j'en suis pas digne et pourtant, c'est un texte-là que je dois lire, enseigner. J'ai besoin de ton aide, on a besoin de ton aide, Seigneur, pour comprendre ce que tu veux me dire personnellement. Donne-nous de la sagesse, Seigneur. Aide-nous à être réceptif à ce que toi, tu veux me dire ce matin sur mes blessures, sur mes compréhensions ou mes compréhensions, sur qu'est-ce que ça vient titiller en dedans de moi tout ça. Est-ce légitime ou pas? J'ai besoin de toi, Seigneur. Hommes et femmes ont besoin de toi ce matin pour nous parler bien humblement. Éclaire-nous, Seigneur. Aide-nous à enlever les embûches, les choses qui ne nous aident pas à bien comprendre et à faire confiance que tu vas nous éclairer, que tu as des bonnes choses pour nous et des vérités importantes à l'Évangile qui se trouve ici, mais que j'ai besoin de l'Évangile pour y arriver. Et je te demande dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. L'histoire que je vous ai partagée tantôt sur Mme Feller, c'est un petit article de notre revue, de notre séminaire qui est sorti, la revue de 2023, hiver 2023. Il y a un petit article là, sur la femme protestante des années 1800, son rôle dans l'Église. Et le petit article écrit par le pasteur Stéphane Gagné, pasteur à Joliette de notre famille d'Église. Une merveilleuse petite article que j'ai justement partagé avec les boys il y a de cela 1 ou 2 mois. On a eu des discussions là-dessus, je les partage aussi pour que les boys puissent le lire aussi également avec leurs épouses, parce qu'il y a de bons sujets extrêmement édifiants dans cette petite article. S'il y en a qui le voulaient, je l'ai scanné et je peux l'envoyer par courriel, ça me ferait plaisir. C'est vraiment un article extrêmement édifiant, pas très long et extrêmement enrichissant au niveau des connaissances et de connaître Mme Feller davantage. Soumission. Alors, c'est un sujet préféré dans l'Église. Tout le monde aime parler de soumission. Ici, ce n'est pas le verbe, c'est le mot. Et le verbe, on le retrouve dans ces textes, entre autres, entre l'homme et la femme, dans Éphésiens, dans Colossiens, dans Pierre. Et c'est aussi également des sujets que les femmes aiment parler avec leur mari. N'est-ce pas, hein? Et vous savez que je suis en train de le dire avec ironie. J'aimerais vous dire ceci, pour commencer. Est-ce que vous savez à qui est attribué la première usage dans le Nouveau Testament de la soumission? Qui est attribué comme étant en train d'être soumis pour la première fois dans le Nouveau Testament? Qui? Jésus. Jésus est le premier à qui on attribue le verbe d'être soumis. Il était soumis à qui? Mais s'il y avait bien un homme sur toute la terre, dans toute l'histoire humaine, qui n'avait pas besoin de se soumettre à des parents, c'était qui? Dieu incarné en homme. Pourquoi il aurait besoin d'écouter sa mère et son père? Des pécheurs, en plus. Et pourtant, le Messie, venu sur terre, marche parmi nous comme un enfant normal qui se doit de se soumettre à ses parents. Et la Bible souligne, la première personne qu'on parle de soumission, c'est Jésus, notre Sauveur, qui marche sur terre avec des pécheurs et qui a pratiqué la soumission volontairement. C'est important. Nous sommes appelés à la soumission mutuelle aussi. Si vous vous rappelez, avant de parler du texte de l'homme et de la femme, je vous rappellerai, messieurs et mesdames, qu'on est appelés comme frères et sœurs en Jésus-Christ, et je crois que ce texte nous parle de ça, cette soumission mutuelle comme frères et sœurs en Christ aussi. Il y a une place de soumission dans le couple, et qu'est-ce que ça veut dire, on va en parler, mais il y a une place aussi de soumission les uns envers les autres, où ce qu'on est des frères et sœurs en Jésus-Christ, appelés à se respecter et avoir ce souci de respect au point de se soumettre volontairement à l'un et à l'autre. C'est biblique, c'est Éphésiens, chapitre 5, verset 21. « Tous les citoyens sont appelés à être soumis aux autorités, sans exception. » C'est répété plus d'une fois par Paul, tout comme Pierre. « Les enfants envers les parents, les serviteurs ou les employés envers les maîtres ou les employeurs sont invités à la soumission. » En fait, vous savez, la Bible nous invite à la soumission à Dieu. Je vous lis ce verset dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5. « De même, de la même façon, pareillement, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. » Donc, la soumission aux anciens également. Et toute soumission dans vos rapports mutuels, ça revient encore là. « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » On est tous appelés à de la soumission à quelque part dans notre vie, dans une sphère. Tous, sans exception, nous sommes appelés à la soumission. Et la première, pour faire du sens, c'est la soumission à Dieu. Si j'ai de la soumission à Dieu, tout à coup, je vais me soumettre aussi à l'ordre créationnel et aux autres consignes qu'il donne. Et je peux me soumettre à quelqu'un d'autre seulement parce que cette personne-là, elle est fiable. Oui? Non? Je ne me soumets pas à l'autre parce qu'il est fiable. Je me soumets parce que je suis soumis à Dieu, premièrement. Lui, il est fiable. Et lui, c'est mon protecteur quand je me soumets à quelqu'un qui n'est pas fiable, qui ne mérite pas ma confiance, mais que je suis dans un rôle quelconque au travail, ailleurs, d'autorité. Comment faire confiance à un autre être humain si je n'ai pas la confiance en Dieu comme mon roi et mon protecteur? C'est bien trop risqué. Et Dieu nous invite à sa soumission les uns les autres, mais en commençant par la soumission avec notre roi, qui là donne du sens à tout cela. Et vous savez que c'est comme dans les militaires, si tout le monde fait ce qu'il veut, il faut qu'il y ait un ordre de commandement, sinon c'est le chaos, et ces armées, vous savez, quand il n'y a pas d'ordre, qu'est-ce qui arrive? Ils perdent. Ils rebroussent chemin, ils sont humiliés, ils sont dominés. Une bonne armée, il y a un ordre de commandement, et on s'entend, tous ceux qui ont fait l'armée savent que ton commandement, ce n'est pas toujours le crayon le plus aiguisé de la boîte nécessairement, là. Mais il est là pour une raison X, il a été nommé là, il a gagné une médaille à un moment donné, il a fait un bon coup, et on l'a placé là, il a de l'expérience, et tu vas devoir suivre son commandement, même si ce n'est pas le plus futé des fois. Là. Cet ordre de commandement n'est pas toujours toute logique lorsqu'on le regarde. Mais si tu ne la suis pas, c'est le chaos, et l'ennemi va en profiter, et tu vas perdre sur le front, s'il n'y a pas d'ordre dans l'armée. Et le Seigneur a dit ceci par Paul aux Corinthiens, chapitre 14, verset 40, mais que tout se fasse dans le bienséance et dans l'ordre. Il faut qu'il y ait de l'ordre, en société, comme en Église, partout, il y a un besoin d'ordre. Écoutez bien ceci, c'est les paroles d'un pasteur que j'apprécie et qui a expliqué bien la soumission ici. La soumission n'est pas l'assujettissement, donc ce n'est pas de soumettre l'autre. C'est très important ce que je vous dis là. Se soumettre, c'est reconnaître l'ordre de Dieu à la maison et à l'Église et y obéir dans la joie. Quand la femme chrétienne se soumet joyeusement au Seigneur et à son mari, elle sent se produire en elle de meilleurs effets. Ici, évidemment, il y a une petite parenthèse pour ce qui est de cela se réalise. Il faut que le mari aime sa femme aussi et qu'il la serve selon le commandement de Dieu comme une arme de combat, tout comme un outil de travail, sagement. La soumission est la clé de la croissance spirituelle et du ministère. Les maris doivent se soumettre au Seigneur, les chrétiens doivent se soumettre les uns aux autres, et les épouses doivent se soumettre au Seigneur, et il mentionne aussi leur mari. Donc, c'est-à-dire ici que la femme n'est pas invitée à faire le tapis et dire oui à tout ce que monsieur lui dit, de partager ses idées, de penser comme lui dans tout, et de faire tous ses caprices. Ce n'est pas ça la soumission. Pas du tout. La Bible dit ceci, la femme est un aide. Et ce mot-là n'est pas traduit avec justesse. Le mot qui est pour aide dans Genèse, chapitre 2, c'est le mot secours. Elle sera un secours pour l'homme. C'est le mot littéralement qui est utilisé là, qu'on traduit à travers tout l'Ancien Testament, comme un secours. On dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, tout comme la femme a l'image de Dieu en elle. Et qu'elle est son vis-à-vis, son égo. Donc, lui apporte du secours précieux dans sa responsabilité d'homme sur terre, dans son travail d'épouse, de père, etc. Il y a une complémentarité, une nécessité pour la réussite de l'homme de ce partenariat avec sa femme. Il a besoin du input de sa femme. Si l'homme veut grandir et bien la servir, il a besoin de connaître ses besoins pour exercer un leadership serviteur, comme le Seigneur Jésus nous y invite, et on va le regarder tantôt. Voir les critères même d'anciens et de diacres qui vont confirmer que le bon diacre, le bon ancien, prend soin de son foyer. Ah, il n'est pas parfait, mais il y a de l'ordre chez eux. Il est fidèle à sa femme. Il instruit ses enfants. Il y a des critères qui sont là pour l'enseignant, qui sont liés à ses relations avec son couple et sa famille. Ce n'est pas pour rien. Donc, il n'y a pas ici de condescendance envers la femme. Il n'y a pas de sous-entendu, de mépris, de moindre. Il y a un souci de protection de Dieu et d'ordre. Et Jésus donne l'exemple premier dans le Nouveau Testament. Il donne le ton. En fait, là où la Bible a été mise en pratique, vous savez, dans les champs missionnaires, là où il y avait de la religiosité, la Bible a amené chez l'homme et de la femme la liberté, là où il y avait de l'oppression. Et là où il y avait la foi chrétienne et qu'il y a eu de l'oppression pour la femme, on ne mettait pas en pratique les saintes écritures, encore moins l'Évangile. Que ça soit dit. Il y avait peut-être des valeurs judéo-chrétiennes, mais avec tellement de religiosité que c'était l'homme qui dominait, écrasait et ne respectait pas et n'aimait pas sa femme, comme la Bible invite à le faire. Parce qu'il y en a plein de mauvais exemples. Et j'aimerais vous citer ici les paroles d'une femme que beaucoup d'entre vous estimez beaucoup. Elle s'appelle Elizabeth Elliott. Elle est déjà venue aussi au Québec. Son mari est mort sur le champ missionnaire, tué par des aborigènes de l'Amazonie. Et cette femme est retournée plusieurs années plus tard, là où ce que son mari a été tué, voir des gens qui ont tué son mari et leur a pardonné, a vécu avec ses enfants dans cette tribu-là. L'Évangile a été pratiqué par cette femme et elle est respectée et admirée des femmes partout autour de la terre. Et elle a dit ceci, c'est dans une soumission volontaire, non imposée par l'homme, parce que nulle part la Bible dit que l'homme soumette sa femme. Jamais, c'est pas dans la Bible ça. Quand il parle de soumission, il parle à la femme. Et c'est son choix volontaire, ce n'est pas à l'homme de le faire. Plutôt qu'une capitulation à contre-cœur, que la femme dans l'Église, mariée ou célibataire, et l'épouse dans le foyer trouvent leur épanouissement, selon Mme Elizabeth Elliott. C'est l'Évangile qui peut rendre cela possible seulement. Pourquoi se soumettre? Pourquoi prendre ce risque? Parce que je me soumets à Dieu, premièrement. Sans cela, ça serait fou. Beaucoup trop de risques. Et on va avancer dans cette réflexion. Je continue. La modestie. Eh oui, un homme qui vient parler de modestie. Du vestimentaire féminin. Oui, effectivement, c'est pour ma cote de popularité que je parle de vestimentaire féminin. La dernière chose qu'un homme veut faire, c'est faire un commentaire sur les vêtements de sa femme, si ce n'est que pour dire que c'est très joli. est très beau. Sinon, il y a une guillotine dans le jardin arrière pour régler ce genre de problème. Qui veut s'aventurer là? On en rit pour pas en pleurer parce qu'effectivement, c'est tellement une réalité. Et je n'oserais pas en parler personnellement si la Bible n'était pas en train d'en parler juste ici. Alors qu'au verset 8, Paul dit aux hommes, vous là, quand vous allez prier, il y a des problèmes d'attitude que j'aimerais que vous adressiez. Votre dépendance à Dieu, votre attitude quand vous approchez Dieu, vos conflits avec les autres, votre colère qui s'exprime, c'est un obstacle. Il faut l'adresser. Et là, il dit, pareillement, au verset 9. C'est ça le premier mot. Pareillement, également. C'est un adverbe qui est là pour faire la transition des deux, donc ça sous-entend que les femmes aussi, quand elles vont prier, parce qu'on les voit prier dans 1 Corinthiens chapitre 11, vous aussi, il y a des choses que je dois adresser auprès de vous, les femmes. Donc, il y a parlé aux hommes, j'aimerais dire ici en premier, avant les femmes. OK? Ce n'est pas une vendetta contre les femmes ici. Avant de prier, les hommes, il y a ça. Les femmes, il y a ça. Et donc, les deux sont adressés ici. Mais si on commence juste au verset 9, on oublie complètement ce qu'on vient de lire sur la prière, sur comment on doit prier à Dieu, ce qui vient juste de parler du contexte. C'est ça le contexte. Donc, les deux sont invités à prier publiquement, mais chacun avec leur défi qui est adressé. Et ici, il adresse la question du vestimentaire. Et certainement qu'à leur époque, tout comme à notre époque, le vestimentaire est toujours un défi. Et l'ironie, vous savez, c'est que les hommes sont plus affectés par l'extérieur et la beauté de la femme. Et c'est les femmes, pas les hommes, qui vont s'essayer dans la société s'habiller plus sexy, plus en fonction des formes. Les femmes sont moins attirées par le look, mais c'est pourtant les hommes qui sont habillés plus sans mettre l'accent sur les formes. Ce n'est pas un absolu, je mets une généralisation ici. Et la mode pousse vers l'exploitation de montrer ton corps et de mettre davantage l'accent sur tes attributs, sur attirer le regard. Et on va se le dire, à même chosifier le corps féminin. Et à mon sens, à bien des égards, il y a un mépris extrêmement grand que les femmes subissent ici. Et il vient, et je vais y revenir, du péché de l'homme lui-même, qui incite dans ce sens-là, qui nourrit aussi sa part. Mais continuons. Remarquez bien dans les versets qui est mentionné ici, il parle de tenue convenable, de décence, de modestie, de se parer. Et deux fois, le mot ici va apparaître en grec, le mot qu'on a en français, cosmétique. De se cosmétique, de se comestiquer, c'est l'idée d'ornement, de s'habiller, de se décorer, tout dépendant du contexte, évidemment. Et il dit, quand les femmes vont mettre l'accent sur, mettre de l'ornement sur eux, attention. Attention, il y a deux critères, modestie et convenance ici. C'est pas l'extérieur qui doit être le plus important, malgré que c'est très beau et agréable, une femme qui sait bien se vêtir, mais qui en fait pas tellement qu'elle oublie que le vêtement qui est le plus important pour l'homme et pour la femme, c'est la modestie intérieure. Dieu regarde au cœur de l'homme, pas à son comportement et ses médailles. Dieu regarde au cœur de la femme, pas à toute sa chevelure et toute sa beauté et ses attributs extérieurs. Pour les deux, c'est la même chose. Il regarde au cœur et dans les deux cas, verset 8, le verset 9 et 10, il parle aux deux, hommes et femmes, au sujet de leur cœur et de leur attitude qui ne doit pas juste être à l'intérieur, mais se manifester dans un comportement qui est cohérent. Les deux mots utilisés pour parler de modestie, de simplicité, sont traduits ici de la façon suivante par les spécialistes du grec, dont je ne suis pas. Le mot évoque la réserve féminine en matière de sexe. Dans le mot, il est impliqué une répugnance morale innée à faire ce qui est déshonorant. Il s'agit d'une honte qui empêche de transgresser les limites de la réserve et de la pudeur féminine, ainsi que le déshonneur qui s'y rattache à juste titre. Sobriété parle de maîtrise de soi. Donc, j'arrive à me contrôler. C'est pas l'extérieur qui m'impose un agenda. Ce terme désigne essentiellement la maîtrise parfaite des qualités physiques appliquées aux femmes. Il est également une nuance qui est évidemment résolument sexuelle. Il s'agit de cette habilité de maîtriser l'intérieur de soi avec son règne constant sur toutes les passions et les désirs. Ces mots soulignent évidemment d'éviter les extrémités que notre société va pousser sur l'extérieur et non finalement sur l'essentiel qui est à l'intérieur. L'homme et la femme ont chacun une exhortation ici sur leur caractère et dans la manière dont ça va se manifester à l'extérieur pour les autres. Et le contraste ici est axé sur la superficialité artificielle du monde. Oui, j'ai fait un double, j'ai fait un pléonasme, c'est intentionnel. Contrairement à la véritable beauté. Et Pierre va en parler également. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. On arrête ici un petit instant. Là, je sais, vous voulez toutes vous tourner vers la femme qui est tressée dans votre rang. Faites pas ça, vous allez vous mettre mal à l'aise. C'est pas de ça qu'il parle. Moi, j'ai fait des tresses à mes filles, là. Ça prenait 3 minutes parce que c'était pas compliqué. Il parle pas de faire une tresse ici. Il parle de la complexité d'une monture de chevelure qui se faisait, qui pouvait prendre 3-4 heures de temps. Et je pourrais vous ennuyer là, pendant les 5-6 prochaines minutes de vous lire Pline, Pilon et d'autres qui ont écrit à l'époque de comment les problèmes qu'ils avaient sur les chevelures excessives et la mode, particulièrement chez celles qui avaient des servantes qui pouvaient les aider à fabriquer toute une affaire qui prenait 3-4 heures au détriment de ne pas prendre soin de leurs enfants et de se pavaner pour manifester leur richesse extérieure, qu'ils étaient d'un autre rang dans la société et qu'ils avaient des chevelures qui se démarquaient. Wow, tout le monde faisait remarquer cette femme-là qui, elle, avait le temps, avait l'argent, puis avait aussi les servantes pour l'aider à mettre des petits oiseaux, toutes sortes de petits cossins, puis toutes sortes d'affaires qui la démarquaient, là, qui la rendaient tellement différente et belle des autres. On ne parle pas de se faire une tresse d'un cheveu, OK? Ou de se faire une série de tresses qu'on garde pendant quelques mois. C'est pas de ça qu'on parle. S'il y a de quoi, c'est ça, c'est pour simplifier les choses qu'on fait les tresses souvent chez les femmes. OK? Ça facilite l'entretien, etc. On ne parle pas de ces tresses-là, OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On l'a éliminé ça ensemble? J'entends un amen? OK. Fait que là, ceux qui ont des tresses ce matin, personne ne vous regarde, là, OK? C'est pas de ça qu'on parle. On parle de modestie, de chercher l'attention, d'attirer le regard sur « je suis tellement différent des autres ». Et on reconnaît ici que on déduit du contexte, et les auteurs sont tous unanimes ici, sur un excès que Paul adresse dans l'Église et qui avantageait certaines femmes qui se démarquaient des autres. Et là, qu'ils arrivaient avec une plus grande notoriété de rang par leur richesse, certaines pouvaient arriver avec des vêtements qui coûtaient 7 000 dinars. Un dinar était le montant que gagnait un serviteur de base dans les champs pour une journée. 7 000 journées de travail pour payer cette robe-là. Excessive, démesurée, et que là, qui imposait, ça intimidait les autres femmes, ça intimidait les hommes, parce que ce pavanage de richesse imposait beaucoup de respect et que tu disais pas n'importe quoi, parce qu'elle avait un statut en société. Mais ça, c'était mis de l'avant à l'insu du cœur. À vouloir même peut-être dominer sur des hommes et des femmes dans l'Église, à l'insu du cœur et d'avoir l'attitude que Dieu voulait pour cette femme-là. Il adresse ses excès de mettre l'effort sur l'extérieur et de négliger l'intérieur. Et il invite ici à cette modestie qui ne cherche pas le regard avant tout de l'autre et de chosifier son corps. Chose que Dieu, évidemment, ne cautionne pas. Donc, on a fini les tresses, on peut continuer maintenant. Il ne faut pas que ce soit un sujet de distraction. Ça va? Vous êtes avec moi? Il y en a quelques-uns, il y en a qui sont frustrés déjà là. Suivez-moi alors, on continue ensemble, OK? Les ornements d'or ou les habits qui en revêtent. Des mêmes affaires que parle Paul finalement, que Pierre adresse également. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible qui ne peut pas pourrir, qui ne peut pas pogner la teigne comme un vêtement, qui ne peut pas pourrir comme une broche de métal, qui peut pogner la rouille dans les cheveux, et toutes sortes de... qui va briser éventuellement cette pureté-là qui reste, qui est incorruptible, d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande prière. Ben oui, c'est ça, Joël, c'est bien. Hein? Il faut que les femmes soient paisibles, puis qu'ils ne donnent pas de troupe, puis qu'eux autres ne disent pas grand-chose. C'est ça encore un homme qui dit ça. J'aimerais vous rappeler une vérité extrêmement importante de l'Évangile. De qui est-ce qu'on parle le premier dans le Nouveau Testament d'être doux et paisible? Non, vous êtes embêtés, là. Jésus! Je suis doux et humble de cœur. Mesdames, Paul est en train de vous inviter à être comme Jésus, doux. C'est ça qu'il est en train de dire. Jésus est attrayé. Il dit, heureux les doux. Chapitre 5 de Matthieu, verset 5. Chapitre 11, il dit, je suis doux et humble de cœur. C'est une invitation à avoir l'attitude de Jésus. Ce n'est pas l'invitation d'être un tapis qu'on marche dessus. Ce n'est pas ça du tout. Jésus est le maître exemple pour l'homme et la femme dans chacun de nos rôles. Jésus est l'exemple parfait de l'attitude féminine et masculine qu'on doit avoir l'un envers l'autre. Et ça, c'est vraiment important à se le rappeler, qui est d'un grand prix devant Dieu. Messieurs, nous aussi, on est invités à avoir cette même attitude-là, cette douceur de Jésus, pas juste les femmes. Je saute toutes les notes sur les tresses et sur la parure locale et tout cela, parce qu'on pourrait être longtemps et passer à côté de l'essentiel. Je termine ce point-là avec, en disant ceci. Rappelons-nous le contexte, OK? Le contexte, dans chapitre 1, verset 11, c'est des fausses doctrines. Et lui est en train de rectifier des mauvais comportements, des faux enseignements et de ramener les bons enseignements qui sont liés à la parole de Dieu, pas la religion et son agenda de contrôler les femmes. Deuxièmement, il dit au chapitre suivant, comment on doit se comporter et conduire la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant. Il donne des conseils sur comment on est quand on est ensemble, comment on doit se comporter lorsqu'on est en train de prier ensemble comme assemblée, hommes et femmes. Priant le même Dieu et cherchant la même faveur, et chacun avec notre défi d'attitude. Le point suivant est important, parce qu'il est facile d'avoir un jugement sur le vestimentaire des hommes et des femmes, et c'est facile pour vous de regarder un homme en avant qui est en train de parler de vestimentaire parce que je suis un homme. C'est pas compliqué pour moi. Et n'importe quel homme qui a moindrement regardé sa femme le matin, prendre le temps de choisir son linge, sait que c'est pas simple habiller une femme. C'était pas une joke, là. C'est vrai. Le corps d'une femme est plus compliqué à habiller qu'un homme par ses formes. C'est beaucoup plus complexe. Son corps peut changer beaucoup plus par les maternités. La complexité des formes qu'on veut mettre de l'avant ou faire attention. Être sobre. Le vestimentaire des femmes, regardez la proportion des magasins, c'est parce qu'il y a pas mal plus de choix, parce qu'il y a pas mal plus de variété, de changement et de complexité dans la parure féminine que l'homme. Et c'est pour ça que Paul doit en parler. Et pour les hommes, c'est pas plus compliqué. Moi, en me levant, j'ai pas besoin de me peigner. Je suis beau en me levant. C'est comme ça. J'ai aucun mérite, là. C'est juste de même, là. Vous êtes peut-être pas tous d'accord, c'est pour ça que vous riez de moi. Y crois-tu vraiment? Ça me fait du bien, OK, de le croire. Mais les femmes ont leurs cheveux, ils doivent les travailler. Et il n'y a rien de mal à ça, de vouloir bien paraître. Vous êtes femme, l'enjeu n'est pas ici de diminuer la féminité d'une femme. Ça serait de mal comprendre les Écritures. Vous me suivez? Mais ce point vient d'une chicane que j'ai eue avec ma femme. Ma femme se demande où je m'en vais. Je m'en vais à quelque part que tu vas être d'accord, chérie. Il y a une semaine et demie, j'étais en train de me préparer tout ça, puis on a eu un accrochage. Je sais que vous êtes surpris, mais ça arrive même chez nous. Je vous le garantis que ça arrive chez nous. Il y a un homme et une femme chez nous. Fait qu'on trouve moyen de chicaner sur toutes sortes de choses, de se blesser l'un l'autre, d'avoir des différends. Et à la suite d'un différend, j'étais... Une heure plus tard, après m'être remis de nos discussions puis de réfléchir, j'étais en train d'étudier le texte et il m'est apparu un fait indéniable qui devait être adressé ce matin. Et c'est vraiment important. Je vais vous le lire parce que je l'ai écrit et je vais être sûr de bien l'exprimer. Les hommes peuvent critiquer les femmes, mais les hommes nourrissent cette pression sur les femmes par leur convoitise et leur excès de superficialité que les hommes traitent le corps féminin. J'aimerais vous dire, messieurs, mesdames, que quand on parle de ce problème-là, il faut se regarder soi-même, les hommes. Nous créons, par notre péché de convoitise, de commentaires sur les corps de femmes, du regard, nous créons cette pression sur les femmes. Nous chosifions, nous péchons contre Dieu. On peut facilement critiquer, mais difficilement se regarder dans la glace et regarder comment on manque comme homme envers les femmes. Et que toute cette culture-là des femmes et des annonces à la télévision et tout ça vient d'un rapport qui savent que les hommes, ça les intéresse. Qui vont avoir de la cote d'écoute dans une première série s'il y a une scène d'amour pour accrocher. La convoitise masculine et féminine, mais plus forte chez l'homme. Et on pêche contre les femmes et on cultive ça. Parce qu'on critique. Ah, oh, ben là, attends un petit peu, là, à critiquer, là. Est-ce que j'y participe? Est-ce que j'y ai contribué comme homme? Et donc, pour être bien honnête, il faut commencer ce matin comme homme. Et j'aimerais vous le dire personnellement. Je dois demander pardon. On pêche par notre convoitise qui créons des blessures. On pêche par notre manque de leadership. On pêche par notre leadership extrêmement égoïste, centré sur soi. Et après ça, on se demande pourquoi notre femme ne nous fait pas confiance. Puis quand on prend une décision, que c'est vraiment pour nous deux. Et qu'on sent le besoin de le communiquer. Oui, c'est... Si elle ne ressent pas, peut-être c'est parce que j'ai souvent pris des décisions égoïstes. Des décisions à mon avantage. Des décisions comme moi je voulais. Par ça, je vais avoir la confiance. À notre honte, il y a une tension homme-femme. J'aimerais nous parler à nous, les hommes. Voici ce que Jésus nous invite à être. Jésus dit, quand il parlait d'être orgueilleux, puis c'est qui va être le meilleur, puis le plus, entre nous, à côté de toi, puis à gauche, puis à droite, puis il dit ceci, il dit, vous, ça ne devrait pas être comme ça parmi vous. Qu'il soit votre serviteur et quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et qui, les hommes, on est invités à aimer notre femme comme l'Église, comme Christ a aimé. Quand je regarde ce verset-là, ben, je peux comprendre ma femme de manquer de confiance dans mon leadership, de manquer de confiance dans mon intégrité morale. Soyons pas trop prompts à être frustrés envers notre femme ou envers les femmes en société qui ont de la misère à faire confiance aux hommes. La Bible ne dit pas que les femmes doivent faire confiance aux hommes parce qu'ils le méritent, heureusement. Mais parce que Dieu a mis un ordre de cette façon-là. Mais nous, les hommes, ça nous impose une responsabilité que Dieu nous exhorte plus souvent que les femmes dans le Nouveau Testament, dans notre rôle d'homme. Et j'y arrive pas sans l'Évangile. J'ai besoin de l'Évangile tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne suis pas cela naturellement. Je suis naturellement ambitieux, égoïste, centré sur moi, orgueilleux. C'est ce que je suis naturellement. D'où mon besoin de demander pardon. Voilà probablement une partie du nerf de la guerre, messieurs. Et je viens de partie. Je ne touche pas à votre rôle, mesdames. Je parle à nous, les hommes, présentement. Le manque de leadership serviteur aimant. Forcé de constater que ce n'est pas simplement l'attitude pécheresse de la femme, mais nous avons pas aidé les hommes. Et nous sommes invités à nous repentir ce matin devant ce que Dieu demande aux hommes et aux femmes. Nous, comme hommes, je peux nous parler à nous, les hommes. Dire, messieurs, on a besoin de demander pardon à Dieu pour la part. Demander pardon à nos femmes, à nos enfants, pour la part de leadership que je ne suis pas en train de vivre l'Évangile. Et vaut mieux le dire dans la soixantaine avançant en âge que pas le dire pantoute. Vaut mieux le réaliser maintenant et faire un changement. Pardon de ne pas vivre l'Évangile devant nos femmes et nos enfants comme Dieu le veut. Seulement la foi en Dieu peut nous permettre et peut accorder à une femme de nous faire confiance à un homme. Mais vice-versa aussi, car nous sommes tous deux pécheurs, avec des blessures qui ont besoin de guérison ce matin. Et peut-être c'est la chose la plus importante ce matin, ça me soulève des frustrations de mon père, de ma mère, ça me soulève des frustrations envers mon mari, ma femme. Ça soulève des frustrations envers quelqu'un qui m'a blessé et pour lequel j'ai la misère à faire confiance, que je réagis. Et quand je réagis, ce n'est pas l'esprit. Ça, c'est ma chair quand je réagis. C'est la défensive, c'est mon autoprotection. Non, Dieu. J'en dirai pas plus. Je vais terminer avec ce quatrième point, l'attitude, que le texte souligne de manière indéniable, verset 10, et j'aimerais vous le relire tout simplement ensemble. Mais de bonnes actions à place, plutôt que de s'orner d'or, de perles qui étaient trois fois la valeur que l'or elle-même, qui montrait le statut social, la richesse, qui mettait l'accent sur hey, wow, hey, elle se paye des bijoux, elle. Oh wow, okay, de l'or, oh des perles, hey, un collier, oh, wow. Au lieu de voir ses bonnes œuvres qui devraient l'orner à place. Et les bonnes œuvres de femmes sont mentionnées entre autres au chapitre 5 qu'on va regarder sur prendre soin des veuves. Il va y avoir beaucoup de bonnes œuvres là, qui vont être notées dans le ministère des femmes envers les femmes et envers les enfants, etc. Comme il convient à des femmes qui déclarent respecter Dieu. Et je m'arrête là-dessus. Le mot qui est là est utilisé rarement et c'est vraiment le mot crainte de Dieu, révérence envers Dieu. Et vous savez, tout le Nouveau Testament est invitant envers l'homme et la femme d'avancer vers Dieu avec crainte et tremblement. Pasteur Benoît a prêché justement une belle série dans la pratique de l'Évangile il y a 2 ans sur Philippiens. Et si vous pouvez y retourner, vous allez apprécier Philippiens chapitre 2, verset 12. Comment qu'on devrait mettre en œuvre notre salut? Il dit « avec crainte et tremblement ». Tout l'Ancien Testament invite l'être humain à aborder Dieu avec crainte et tremblement. Pourquoi? Il est saint. Pourquoi je ferais ces choses-là? Parce que j'ai un respect pour Dieu. Ça, c'est l'attitude que Dieu veut voir chez l'homme et la femme. Et là, il adresse la femme. Le respect de Dieu, qui est aussi traduit par beaucoup de versions, être pieux, pieuse. Un respect de Dieu qui se manifeste dans un comportement, donc, pieux, honorable à Dieu. Honorable d'un adorateur de Dieu, d'une adoratrice. Jésus dira, chapitre 9, verset 31 de Jean, « Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un est pieux, le même mot ici, avec une petite déviation, utilisé une seule fois aussi, si Dieu, quelqu'un est pieux ou un craignant Dieu et fait sa volonté, celui-là, il écoute. » C'est l'attitude que Dieu veut de l'homme et de la femme, et ici souligné envers la femme. C'est le seul moyen qui va amener que, parce que j'ai la crainte de Dieu, j'ai la crainte que je me vêtisse d'une façon qui honore Dieu dans toutes les sphères de ma vie. Que toute mon expression corporelle manifeste ma soumission à Dieu et le respect de celui avec qui je fais équipe pour la vie. Même si des fois, il n'est pas toujours respectable. Mais lui, il l'est toujours. Lui, il est fidèle. Et c'est sur lui que je mets ma foi et ma confiance et la constance pour avoir de la fidélité et non sur le regard des êtres humains autour de moi qui vont toujours me donner des raisons de devenir charnel. C'est pas parce qu'on le mérite, les hommes. C'est parce que Dieu le mérite. Messieurs, on n'aime pas notre femme à la folie parce que notre femme le mérite tout le temps. C'est parce que lui le mérite. C'est parce que je crains lui. C'est pour ça. Mon attitude ici est l'invitation qu'il donne. Cette attitude de piété, de révérer Dieu et de vouloir lui plaire à lui. Voilà la motivation et non la culpabilité, mesdames. Non l'obligation, non les commentaires condescendants comme motivation. Non l'intimidation ou le désir juste d'apparence pour se complaire à satisfaire monsieur ou la personne au travail ou pour mon vestimentaire, mais pour Dieu. Voilà la seule motivation juste et Dieu le voit dans notre cœur quand on le fait pour les autres ou qu'on le fait pour lui. Je termine avec ceci. Vous savez, le Nouveau Testament montre très bien que Jésus estimait les femmes. Et Jésus a fait beaucoup de choses qui ont été choquantes pour les hommes de voir Jésus, comment il interagissait avec les femmes dans son ministère. Que ce soit la femme samaritaine ou bien d'autres, il faisait des choses hors normes que la religion disait de ne pas faire, mais que Jésus ne croit pas et condamne la religion. C'est pour ça que les religieux ont détesté Jésus à le tuer. Et Jésus a fait des choses qui n'allaient pas minimiser, qui étaient révolutionnaires à restaurer la vision de Genèse par l'Évangile. Dont ces femmes nommées. Et je pense justement que Pasteur Tony a prêché récemment sur ces femmes que Dieu a utilisées puissamment avec leurs moyens, leurs capacités pour servir. Et il le souligne dans Luc. Et combien de fois d'autres? Plusieurs femmes se sont démarquées dans les actes, que ce soit Dorcas, Lydie, cette marchande, pas cette femme marchande qui allait de ville en ville et qui s'est convertie et dont son ministère a été noté. Priscille, avec son mari, qui fait de la formation de disciples avec un évangéliste qui manque quelques points de doctrine essentielle. Il s'assise avec, en couple. Et c'est drôle, c'est la femme qui était nommée avant l'homme. Elle semble avoir eu de la drive. Et ils travaillent ensemble en couple, en équipe, et ils prennent soin d'Apollos. Ils font de la formation de disciples, lui enseignent la saine doctrine de Jésus. Et là, Apollos repart en ayant compris quelque chose qui lui échappait complètement avant de rencontrer cet homme et cette femme en équipe qui ont pris soin de lui. Quel beau modèle de service en couple. Paul saluait près de 8 femmes dans la conclusion de la lettre aux Romains, ce qui peut nous échapper tellement facilement dans une lecture parce que les listes de noms à la fin d'un épître, on les saute souvent. Pourtant, ça nous dit beaucoup de choses sur les partenaires et les gens qui aimaient et estimaient Paul. Et là, il va mentionner Phébé, diaconesse, qui va entre autres amener cette lettre. Des exemples de femmes, vous savez, il y en a plusieurs. Et cette semaine, j'ai envoyé un texte à au moins 6 femmes, parce qu'au moins 6 m'ont répondu. Des femmes de 30, 40, 50, 60, 70. Et j'ai été beaucoup instruit d'entendre les femmes qu'ils admirent dans la Bible et les femmes qu'ils admirent de leur vivant qui ont un impact sur elles. Et voici les choses qu'ils ont dit, entre autres, sur les femmes qui ont eu un impact sur elles, ces 6 femmes-là qui m'ont répondu. Des femmes pieuses, il y en a partout, vous savez. Elles sont parfois discrètes et d'âge varié. Une des femmes qui a été mentionnée, là, c'est une femme de 25 ans, dans la vingtaine, qui se démarquait dans son amour pour Dieu. Le fait qu'elle s'ouvrait sur l'Internet sur ses défis qu'elle vivait comme femme et se rendait vulnérable. Et elle inspirait une femme de 50 ans le respect. Puis wow, quel bel exemple de femme. Une autre femme, c'était une femme blogueuse qui, de chez eux, a commencé à bloguer depuis 14 ans et qui, là, finalement, influence, et qui, en toute modestie, partage sur des thèmes féminins qui l'encouragent comme femme. Elle m'encourage et persévère dans leurs épreuves et relève des défis tout en restant ancrée dans la parole de Dieu. Des femmes qui ont passé des cancers, des femmes qui ont perdu leur mari et des voir se comporter après et qui ont inspiré d'autres femmes. Wow, quelle héroïne de la foi. Des femmes de l'Ancien Testament, deux ont souligné Esther, pour différentes raisons. Mais cette audace devant un homme d'avoir pris son courage à deux mains avec foi et s'être tenue pour son peuple. Elles me fortifient et m'édifient. Elles sont inspirantes et me motivent à pratiquer mes dons, d'autres diront. J'aimerais terminer dans la prière. Je sais que le temps avance. C'est un grand sujet, mais je termine avec cette diapo, encore une fois. Une bonne femme est la meilleure chose au monde. Les femmes furent les dernières à la croix et les premières au tombeau ouvert. Un fait historique. L'Église doit une dette envers les femmes fidèles qu'elle ne pourra jamais estimer, sans parler de la dette que nous avons dans nos foyers envers des épouses et des mères. Prions ensemble. Père Céleste, merci de nous accorder la paix, de lire ta parole et d'aborder des sujets qui peuvent être un peu tabous, vus comme des sujets peut-être un peu suicides en avant. Et pourtant, ta parole en parle avec courage. Tu as adressé, Seigneur, ces enseignements depuis la création du monde à l'homme et la femme, et tu n'as pas changé, Seigneur. Et Seigneur, tu t'es montré un Dieu qui n'est pas limité par ça. Parce que lorsque les hommes n'avaient pas de courage, tu as levé une mère en Israël comme Déborah, Seigneur. Une femme qui a marqué son époque, un combat et dont l'histoire nous rapporte. Des femmes ont marqué des moments, des cracks de l'histoire où ce que l'homme ne se levait pas. Et une femme s'est levée et a marqué l'histoire. Pas parce qu'elle voulait prendre autorité, parce qu'il y avait un besoin et parfois elle s'est levée pour toi, Seigneur. Que les femmes de cette Église, Seigneur, aient de l'audace pour toi, prennent la place que tu les appelles à avoir, et que chacun d'entre nous, Seigneur, hommes et femmes, ayons cette attitude de craignant Dieu, que c'est toi qu'on veut plaire avant tout, et qu'on ose se soumettre, s'écouter les uns les autres, respecter, parce que c'est toi qu'on aime, c'est toi qui es mort à la croix, c'est toi qui es précieux pour nous, et que fait que du désespoir que nous vivions, il y a de l'espoir aujourd'hui. Et qu'on garde ce souvenir de ce morceau de tissu qui nous rappelle ce sacrifice de l'être qui nous a le plus fait du bien au monde, Jésus. Par la coupe, par le pain, on se rappelle ce que tu as fait pour nous. On te remercie. Et basé sur cet évangile, Seigneur, je te prie pour les femmes de notre Église, qu'elles soient pieuses et heureuses avec l'Évangile, fières et audacieuses avec Jésus. Qu'elles soient une inspiration pour nous, les hommes, dans leur foi envers toi. Qu'elles influencent cette Église comme tu invites les femmes à le faire et comme chacun d'entre nous, hommes, devons le relever. Pardonne-nous, Seigneur, hommes et femmes, nos fautes qu'on s'est faites l'un envers l'autre de mépris, de manquer de respect, de ne pas servir comme tu nous demandes avec ton attitude à toi, Seigneur. J'ai manqué. Je te demande pardon, Seigneur. Je demande pardon à ma femme, à mes enfants, à cette Église. J'ai besoin de toi, Seigneur. Sans toi, sans l'Évangile, je ne peux pas être cet homme. Et Seigneur, j'implore les mains tendues, dépendant de toi et désirant, Seigneur, ton aide plus que jamais. Aide-nous, hommes et femmes, Seigneur. Et nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.